Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, je l'avoue, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Frère Jean, alias Jean sans sueur. Il faut dire qu'on ne le voit jamais transpirer sous l'effort, voyez-vous.
Ça, c'est vrai, ça.
Frère Jean se presse de nettoyer la cellule la plus confortable de l'abbaye. La plus confortable, mais tout aussi froide que les autres. Un véritable pensum. Cette pièce, aux dalles inégales et aux murs blanchis à la chaux, tout l'opposé de la partie du bâtiment qu'il affectionne le plus, le réfectoire. Ah, comme sa sainte foi sera fermée dès que mijotent devant ses narines les civets de lièvre et les cuisseaux de cerf que le Seigneur offre aux moines en échange de quelques prières après chacune de ses victoires sur ses suzerains. Longue vie à lui. Le début de ce texte que vous venez d'entendre fait partie d'une série que j'ai intitulée « Quand le vin est tiré ». 20 comme 2 fois 10. Oui, des textes dans lesquels j'ai en effet introduit 20 mots ou expressions d'une même origine. En l'occurrence, ici, 20 mots ou expressions issus tout droit du latin, sans changement ou presque, rendez-vous compte. 20 mots ou expressions dont nous allons interroger l'étymologie, pleine d'histoire, et préciser le sens. Alors, on va écouter la suite des mésaventures de frère Jean, alias Jean sans sueur, car il cherche toujours à éviter les corvées qui le feraient transpirer. On se retrouve ensuite pour décrypter ensemble l'origine et le sens des 20 mots ou expressions tirés du latin dont j'ai truffé mon texte. Puis, vous verrez, puisqu'on flirte toujours ici avec la nuit des temps et des hommes, j'ai glissé, ça et là, des phrases cultes qui ont marqué les années, disons, 1970. D'abord la célèbre mère Denis. Peut-être vous vous rappelez la paysanne qui lavait son linge dans un lavoir pour les machines à laver vedettes. La mère Denis qui lançait son célèbre « Ah, ça c'est vrai !»
Ça c'est vrai, ça.
Et puis, quelques répliques bien cinglantes de Louis de Funès, tout à fait adaptées à la paresse et à la fourberie de frère Jean, qu'on retrouve dans un instant, paresse et fourberie que ne supportait pas son abbé.
« Et cela, messieurs, je ne le tolérerai pas !»
Cardinal, en route pour le prochain conclave qui se tiendra à Rome le mois prochain, fera halte entre leurs murs quelques jours. Et il a adressé au père abbé un memento où figure la liste de ses exigences. Et depuis, frère Jean frotte et récure. Ah, cette cellule brille déjà comme un banc d'église lustré depuis des siècles par les robes de bure. S'il s'écoutait, Jean enverrait à patresse brosse et paille de fer. Mais il craint, comme le diable, les quolibets du père abbé, dont les colères glaciales vous mènent au bord de l'infarctus et vous font trembler tibia et fémur. Décidément, la devise n'est pas ici le carpe diem des couvents bénédictins.
Ça, c'est vrai, ça!
En plus d'une occasion, Jean s'est en effet attiré les foudres de son supérieur et l'a rendu furax. Un jour, il l'a surpris en train de jouer au domino et Jean n'a pu fournir aucun alibi. Un matin, qu'il se plaignait d'une insupportable douleur au duodénum, tentant vainement de se soustraire aux matines, l'abbé l'a de ses biceps de fer extirpé manu militari de la paillasse, tondant rasibus son espoir de se prélasser encore un peu.
Vous me le verrez très cher, mais je le retracherai.
Cela lui a valu un déficit de confiance, difficilement récupérable. Jean sait que le père abbé le considère depuis longtemps comme un nolibrius capable des pires bacchanales. D'ailleurs, il n'a peut-être pas tort, le maître abbé. Jean sourit comme il a souri sous la capuche de sa robe le soir où l'abbé a été la proie d'hallucinations terrifiantes. Faut dire, quelques gouttes de cette jusquiame noire cueillies sur le compost du potager des moines et cette jusquiame dont les sorcières s'enduisent le corps avant de prendre leur envol sur leur balai. Jean avait suggéré en minaudant que l'abbé était peut-être seulement habité par le démon et que peut-être, sans doute, il conviendrait d'en informer l'évêque. Hélas, l'abbé avait surmonté dans les fièvres et les convulsions les affres du délire au grand désespoir de Jean. Oubliant un instant ses muscles endoloris par leur écurage, Jean sourit de nouveau. Il a désormais en sa possession, voyez-vous, une dizaine de ces petites cerises, enragées, sucrées, qui s'écrasent si facilement sous les doigts, ces baies qui provoquent une soif intense et accélèrent le rythme cardiaque inéluctablement. N'a-t-il pas lu Jean dans un manuscrit qu'en Égypte ancienne, déjà, les femmes se déposaient une goutte de cette belladone pour dilater leurs pupilles et rendre leur regard plus langoureux? Ah, notre abbé aurait fière allure avec un regard de créature, non? En attendant, frère Jean continue de frotter, de récurer, car tels sont décidément les aléas de la vie monastique, aléa jacta est.
Game over.
Voilà. Game over pour cette histoire de frère Jean sans sueur. Frère Jean qui rêvait de civet, de lièvre, devant les marmites du réfectoire, mais qui était condamné à récurer la chambre d'un cardinal qui allait faire halte dans son abbaye et qui ne cesse, frère Jean, de rêver à une vengeance contre son abbé. Alors, avant de décortiquer les 20 mots ou expressions tirées du latin contenues dans mon texte, petite révision ne sera peut-être pas inutile. C'est pour ça qu'on va écouter la première déclinaison latine en chanson de Fanny Durand-Portes, interprétée par ses latinistes du collège Lou Redounet à Uzès, dans le Gard.
Au nominatif, c'est sûrement le sujet en A. À l'accusatif, je crois que c'est au D en A.
Commençons le passage en revue des 20 mots ou expressions latines dans ce texte, où le pauvre frère Jean, alias Jean sans sueur, a bien des soucis avec son abbé. Tiens, alias. Alias en latin était un adverbe qui signifiait « autrement » ou « ailleurs ». Aujourd'hui, alias sert à introduire le pseudonyme d'une personne, ou au contraire, son nom réel d'état civil. Exemple ô combien célèbre, mais tardivement célèbre, Romain Gary, alias Émile Ajar. Cet alias qui a permis au dit Romain Gary d'obtenir un deuxième prix Goncourt grâce à cet alias clandestin. Aujourd'hui, un alias désigne également une identité inventée pour cacher son identité réelle sur Internet. On pourrait donner comme alias à alias, vous me suivez, le synonyme d'avatar. Frère Jean devait donc briquer la cellule destinée au cardinal prochainement en visite dans l'abbaye. Un véritable en somme, pour lui. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales nous rappelle que le mot « pensum » désignait chez les Romains le poids de la laine que l'esclave devait filer par jour. D'où, plus tard, en français, le sens de « tâche quotidienne ». Mais avouons que le mot a surtout appartenu au langage des collèges où il représentait le surcroît de travail qu'on exigeait d'un écolier pour le punir. Tiens, j'en connais un pour qui visiblement le latin a été un vrai pensum. Topito se lâche avec le « latin, ça sert à rien » sur sa chaîne YouTube qu'il qualifie lui-même, je cite, de « vraiment naze », mais qui compte pourtant 1,5 million d'abonnés.
Voilà, moi c'est Jérôme, 37 ans. J'ai fait latin de la 6e jusqu'au bac, donc 7 ans. 7 ans de latin ? Je suis programmeur au final. N'écoutez pas vos parents, ils vous mentent. Ça te fait de la culture générale, c'est ça ? Hein ? Tiens, t'as inscrit à ça là, c'est super, c'est une langue morte. Morte !
Revenons à frère Jean. Il craint les quolibets du père abbé dont les colères glaciales vous mènent au bord de l'infarctus et vous font trembler tibia et fémur.
Non, c'est or.
Non, c'est or.
Quolibet, synonyme de raillerie, de moquerie. Eh bien, quolibet vient de l'expression latine, je cite en deux mots, quod libet, ce qui signifie ce qui vous plaît. Dans l'université médiévale, le terme quolibet, quod libet, désignait une discussion ou dispute, disputatio, sur des sujets non préparés, choisis un peu comme ça, lancés par l'assistance. Et à partir du XVe siècle, on relève par extension des emplois dans le sens de propos trivial, plaisanterie. Mais en préparant l'émission, j'ai aussi appris que, en musique, depuis le XVIe siècle, un quod libet est une œuvre réunissant un mélange hétérogène de mélodies et de textes littéraires, souvent assemblés de façon humoristique, lors de beuveries d'étudiants traditionnels dans les universités allemandes. D'où le sens péjoratif du terme depuis quolibet.
C'est pas possible ! C'est pas possible !
Le nom infarctus vient du verbe latin farcire, qui a donné farcir. Étonnant, non ? Eh bien, pas tant que ça. L'infarctus est en effet caractérisé par l'obstruction de l'artère irriguant le cœur quand celle-ci est farcie par des plaques et des pots de calcium. Quant à tibia, eh bien, le mot latin signifiait d'abord flûte, tout simplement, et on comprend la ressemblance avec l'instrument de musique, la flûte, et la forme allongée de l'os de la jambe. Bon, pour fémur, pas de problème, il vient en droite ligne du latin fémur, fémoris, qui signifiait cuisse.
Dis-moi, ce n'est pas vrai !
Frère Jean se désolait que la devise de son monastère ne soit pas Carpe diem. Carpe diem, souvenir du lycée, certainement. Expression tirée des vers d'Horace, philosophe romain de l'Antiquité, bien sûr. Carpe diem quam minimum credula postero. Je traduis, cueille le jour, et l'expression complète signifiait sans te soucier du lendemain. Et sois moins crédule pour le jour suivant.
Carpe diem, carpe diem.
Cueille le jour, profite de l'instant présent. Synonyme contemporain, YOLO. Acronyme de You only live once. Tu ne vis qu'une seule fois. C'est une phrase extraite de la chanson du rappeur canadien Drake, la chanson The Motto, disque de platine aux USA en 2011. Drake possédait d'ailleurs une villa qu'il avait baptisée YOLO, dans le sud de la Californie, une villa qu'il a d'ailleurs vendue 12 millions de dollars en 2022. De quoi bien vivre, une fois, en effet. Rendez-vous compte.
Quelle horreur !
Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem.
Le cardinal tant redouté de Jean était donc en route pour le conclave. Conclave, sens connu, assemblée des cardinaux pour élire le nouveau pape. Mais la clé pour comprendre la formation de ce mot est encore une fois l'étymologie. Ouais, j'ai bien dit la clé. Parce qu'en latin, le mot conclave est composé de cum, avec, et de clavis, clé. Quel rapport ? Eh bien, un conclave désigne donc une pièce fermée à clé. En effet, pour élire le pape, les cardinaux étaient littéralement enfermés dans une salle bien gardée. Alors, si le latin est toujours la langue officielle du Vatican, dans ses textes portant sur la doctrine et les positions de l'Église catholique, partout ailleurs, le latin est considéré comme une langue morte. Et pourtant, le sketch entièrement en latin dont nous allons entendre un extrait n'a rien perdu de son actualité. À Rome, les citadins souffraient eux aussi des bouchons. En tout cas, c'est ce que nous raconte ce sketch cultissime de 1963 sur les pérégrinations d'un conducteur de char, alias Jean-Yann, coincé dans un embouteillage de la Rome antique. Extrait.
Hé
hey ! Oh !
Eh, venir !
Et que dit-ce, mes salades ?
Eh ben, avant ça, mère, un gardoum !
Avec toi, me taxine mes fesses, homme.
Oh, minutum, pater, écrase, homme.
Doc quam, répétum, aux hommes répétare.
Non, mais genare per répétare, non, mais des fois, homme. Obtenare, tu as un permissionnem de conduire arré par pistonem ou dans une homme pochette, homme surprise, homme.
Ah, oh, toi, m'interarré à la boucle à rhum, hein. Si Nanus descendu, c'est fichus coup de pompom dans les michoums.
Oh, provocationem.
Ah, ouais, mon potoum.
Pas bougeum.
Pas bougeum.
Pas bougeum.
Refusaré avançam.
Refusaré.
Cherchoum la bagarum. Genus.
Va des rétro, Satanas, avec mon boutis par chocoum.
Avenus prévenus, c'est cherchem la bagarum. Rentram dans l'ardoum.
Appelle à réflicom. Flicom. Agentus. Centurionem!
Elle a, quoi discussionem? Quoi s'est passé, Tilum?
Agentus témoinem,
ouais.
On retrouve notre frère Jean, astiquant, récurrent les cellules de son abbaye avant l'arrivée du cardinal, qui a adressé au père supérieur de l'abbaye un memento précis de ses exigences.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Memento, voilà encore un mot utilisé aujourd'hui, sous la forme souvent abrégée de memo. Un mot qui nous vient, lui aussi, de la nuit des temps et des hommes. En latin, le mot « memento » est une injonction qui signifiait « souviens-toi ». Mais comment mieux se souvenir que d'écrire, justement? Du coup, un memento est devenu une tablette, puis un carnet, où l'on inscrit des renseignements utiles afin de ne pas les oublier. Synonyme? Eh bien, agenda, terme latin lui aussi qui signifiait « chose devant être faite ».
C'est pas possible! Possible!
Quant au memento mori, c'était un objet de piété, représentant un crâne humain destiné à favoriser une méditation sur la mort et la fragilité de la vie humaine. D'ailleurs, memento mori, dans la Rome antique, la phrase était répétée par un esclave à l'empereur romain lors de la cérémonie du triomphe dans les rues de Rome, afin de lui rappeler, tout empereur qu'il était, sa condition de mortel.
Quelle horreur!
Tiens, à propos de mémoire et de mémorisation, on se remet en mémoire, justement, la leçon de latin que chantait Jacques Brel en 1962.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui...
Par sa tendance à se soustraire aux corvées quotidiennes, Jean avait rendu son abbé Furax. Furax ? Mot venu en droite ligne du latin? Eh bien, pas du tout, malgré ses sonorités trompeuses. Le site Les mots surannés nous explique, je cite, « Mélange de deux antonymes, furax et serait né de la fusion de furibond et relax. Furax naquit ainsi sous les auspices de la colère et de la coulitude, traduisant un courroux qui ne s'abattra pas sur celui ou celle qui provoque sa fureur. Bien que ce ne soit pas l'envie qui manque. Si le furax est furieux, il fulminera, sans pour autant assommer ceux qui pourtant le mériteraient. Le furax est donc un impétueux fumace, mais jamais un violent. C'est tout à son honneur. » Fin de citation. Rendez-vous compte. Mais écoutez-moi ça un petit peu à propos de furax.
Signé Furax.
Signé Furax, le quatrième épisode du feuilleton quotidien de Pierre Dac et Francis Blanche.
En deux mots commençant, mon cher Dac, l'obélisque de la place de la Concorde a disparu.
Remarquez, mon cher Blanche, qu'on l'a en réalité remplacé par un faux obélisque en staff.
D'ailleurs, sur ce faux obélisque, le conservateur a remarqué deux hiéroglyphes inconnus.
Monsieur Fouvreau, le chef de la DDT, a essayé de lui faire dire la signification de ces deux caractères, malheureusement.
Eh oui, je sais. Ouais. Il l'a laissé seul dans le bureau un instant, et quand il est revenu, le pauvre savant...
Le malheureux monsieur Léon était...
Mort.
Mort.
Mort. Signé Furax.
Seuls les plus anciens de nos auditeurs peuvent se rappeler de Signé Furax. Signé Furax, le feuilleton radiophonique en 5 saisons, composé au total de 1034 épisodes d'une durée maximale de 10 minutes chacun. Feuilleton diffusé de 1951 à 1952 sur la chaîne parisienne de la RTF, puis sur Europe 1 de 1968 à 1969, époque où beaucoup de gens étaient justement Furax, après le pouvoir du général de Gaulle. Signé Furax, créé par Pierre Dac et Francis Blanche, Signé Furax parodie joyeusement le genre policier, le récit fantastique, voire la science-fiction, à l'aide d'innombrables calembours, contrepéteries et allusions particulièrement grivoises.
Quelle horreur !
L'intrigue met en scène les détectives Black and White dans leur lutte contre les agissements d'un génie du mal, le redoutable criminel, devinez, Edmond Furax, ainsi que ceux d'une organisation obscure alliée à de mystérieux envahisseurs venus d'une autre planète afin de conquérir la Terre. Leur arme secrète, tenez-vous bien, le gruyère qui tue.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Et celles et ceux qui le consomment deviennent soumis à leur cause et prononcent indubitablement au lieu de indubitablement, sauf les nuits de pleine lune, entre 23h et 23h05. Il y a de quoi de vous rendre Furax, non ? Rendez-vous compte.
Ça, c'est vrai, ça !
Jean avait donc rendu Furax son abbé quand celui-ci l'avait surpris, non pas en train d'effectuer les pansommes dont il l'avait chargé, mais en train de jouer au domino.
Ont-ils une idée ? Pouvez-vous me dire, n'est-ce pas ? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît ? Pouvez-vous me dire ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire ?
Alors oui, je peux vous dire que, d'après le dictionnaire Le Littré, le mot « domino » désignait en bas latin la capuche noire dont les prêtres vêtus de blanc se couvraient la tête pour aller communier et rendre hommage à Dieu, « dominus » en latin, « le Seigneur ». Le jeu de domino aurait été ainsi nommé à cause du revêtement noir que chaque pièce du jeu porte sur l'une de ses faces.
Oh
non,
c'est oh.
Et puis, le jeu lui-même, le jeu de domino, aurait été inventé par des moines du monastère du Mont Cassin, placés en cellule de pénitence, et qui auraient taillé des carrés de bois pour y marquer des points et en faire un jeu. Une fois sortis de cellule, ils communiquèrent le jeu aux autres moines et toutes les fois qu'un des joueurs réussissait à agencer toutes les pièces, eh bien, il s'écriait « Benedicamus Domino », formule ordinaire aux moines et signifiant « Louons le Seigneur Domino ». Ce mot « Domino », souvent répété, devint ainsi le nom du jeu. Rendez-vous compte.
Oh là 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 ! Oh là là !
Hélas, frère Jean n'avait aucun alibi. Alibi de alius, autre en latin, et de ibi, ici. Donc, en latin, alibi signifie dans un autre endroit, ailleurs. Ben oui, moyen de défense d'un accusé, prouvant, affirmant, s'être trouvé dans un autre endroit, ailleurs, que celui où a été commis le crime ou le délit dont on l'accuse. Et sans alibi, c'est bien connu, c'est la condamnation. Assuré. Depuis, Jean récure et astique. Et son abbé le considère comme un nolibrius. Nolibrius, individu au comportement bizarre, bravache, voire agressif. Mais savez-vous que les olibrius ont réellement existé ? Par exemple, ce sénateur romain, allié des barbares, proclamé empereur par surprise en 472 et que son incapacité fit descendre du trône au bout de 3 mois seulement. Ou encore, ces gouverneurs romains, persécuteurs des chrétiens, d'où l'image de cruauté associée à leur patronyme. Jean, pour échapper aux corvées, prétendait souffrir du duodénum. Duodénum, partie initiale de l'intestin grêle nommée ainsi en raison de sa longueur de 12 doigts. Duodenum, digitorum en latin. L'abbé l'avait extirpé de sa paillasse avec ses puissants biceps, tout simple, muscle du bras pourvu de deux attaches à sa partie supérieure, d'où son nom, qui signifie en latin « double tête ». Et son supérieur, l'abbé, avait ainsi sans ménagement tondu « rasibus », l'espoir de Jean de se prélasser davantage. Rasibus, étonnante création du moyen français au XIVe siècle, depuis le latin « rasus », qui voulait dire « rasé tondu », suivi de la désinence latine « ibus », qui donne donc, hôte final, « rasibus ». Ce malheureux épisode a valu à Jean un sérieux déficit de confiance de la part de son abbé. Déficit, du verbe latin signifiant « il manque ». Un déficit a désigné à partir du XVIe siècle un article qui manquait dans un inventaire, avant d'exprimer de nos jours tout manquement à ce qui est attendu en matière, par exemple, de finances ou de confiance. L'abbé soupçonnait Jean d'être capable des pires bacchanales. Bacchanales, ces fêtes religieuses célébrées en l'honneur du dieu Bacchus, divinité de la vigne et du vin, pendant lesquelles on buvait outre mesure.
Et cela, messieurs, je ne le tolérerai pas.
Tout en préparant sa vengeance, Jean subissait les aléas de la vie monastique, ces événements pas forcément agréables que nous réserve le destin ou tout simplement le hasard. Il faut dire que, justement, aléa vient du latin « jeu de dés », hasard, chance. Hasard, chance, d'où l'adjectif « aléatoire ». Notre Jean, lui, ignorait tout cela, bien sûr. Mais il ne cessait de se répéter cette formule célèbre « aléa iacta est », le sort en est jeté. Phrase qui aurait été prononcée par Jules César avant de franchir le Rubicon. Le Rubicon, petit fleuve côtier d'Italie centrale qui se jette dans l'Adriatique en traversant sans autorisation le Rubicon avec ses propres troupes, César violait donc cette loi, sachant parfaitement que désormais, il ne pourrait plus revenir en arrière. En 1965, le Concile Vatican II décrète l'abandon de la messe en latin pour une célébration en langue vivante. Bouleversement considérable pour les catholiques, mais pas seulement. Georges Brassens, vieil anard anticlérical et mécréant, passe en revue les conséquences inattendues pour les fidèles.
Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique.
Rassurons-nous, le latin n'est pas totalement mort ni enterré. La preuve, en 2016, une députée de l'opposition, Virginie Duby-Muller, a critiqué la réforme du collège de la ministre de l'Éducation de l'époque, Madame Vallaud-Belkacem, réforme qui, pour certains, vouait à la disparition le latin et le grec dans les programmes. Et Madame Virginie Duby-Muller a conclu ainsi son intervention.
Madame le ministre, errare humanum est, perseverare diabolicum.
Persévérare au-delà de notre horaire serait également diabolicum. Alors, ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré à la lettre L, L comme latin, cette langue morte venue de la nuit des temps et des hommes, mais qui continue à vivre dans le français d'aujourd'hui.
C'est très bien, c'était très bien.
J'espère que cette promenade historique et étymologique n'a pas été un pensum pour vous et que vous n'êtes pas furax après moi. Gravez dans votre memento la date de notre prochain rendez-vous. Vous n'aurez ainsi aucun alibi pour le manquer. En attendant, carpe diem, mes chers Olibrius, mais n'abusez pas des bacchanales. Rendez-vous compte, une émission conçue et réalisée, présentée par Didier Delatte sur IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole valdoisien et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.